Et je peux vous dire que je vous lis. Vous êtes très, très nombreux à m'écrire à isabelle@985fm.ca et vous êtes nombreux à me témoigner de toutes ces situations que vous voyez, dont vous êtes témoin ici et là, que ce soit dans des pharmacies, dans des épiceries. Station-service, me dit Nicole, avec dépanneur. On demande aux clients qu'il est préférable de payer par carte de crédit ou débit pour éviter le contact avec l'argent. Elle dit, il y a plein de gens qui me répondent, virez pas fou avec ça. J'ai pas 70 ans, c'est pas dangereux, je suis pas malade. Nicole dit les gens sont vraiment encore ignorants ou alors ils s'en foutent tout simplement. Mais il faut vraiment être plus strict avec des amendes. Alors, on a passé la première heure à discuter de ça. Vous pouvez, d'ailleurs, si ça vous tente ou si vous l'avez manqué, aller la réécouter sur notre site Internet. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à la situation des personnes âgées, en particulier dans les résidences pour aînés au Québec. Vous avez vu là, la pandémie qui prend de l'ampleur dans plusieurs établissements. Évidemment, la région de Montréal, c'est une région importante. Il y a beaucoup de gens touchés, mais également dans d'autres régions, bien sûr. On pense à l'Estrie où on a noté des premiers cas. On pense entre autres à la Valdrie, entre autres, ou à la résidence Eva. On a confirmé 39 cas ce matin de COVID, de la COVID-19. C'est une résidence pour retraités. Vous vous souvenez, c'est là qu'il y avait eu le premier décès. C'est pas une situation facile, on le dit depuis le début, évitez d'aller voir vos proches et là maintenant c'est carrément à proscrire. On considère que ce sont des foyers d'infection. La résidence Eva par exemple à la Valtrie est vraiment considérée comme un hotspot comme le disait Horacio Arruda, un foyer d'infection et à COVID-19 et à éviter. Comment expliquer ça? Comment faire en sorte de mieux protéger nos personnes âgées? Et c'est un peu la question que je vous pose. Vous qui avez des proches, vous qui leur faisiez des babayes peut-être à travers les vitres, hein? Beaucoup de gens suivent les règles quand même. C'est malheureux, on parle toujours pour ceux qui ne suivent pas, mais j'ose penser que la majorité d'entre nous respectent ces règles-là. Est-ce que vous pensez qu'on protège assez les gens âgés? Je vous parlais tout à l'heure de Je dénonce, c'est un site qui a été lancé par les travailleurs de la santé, entre autres la FIC, là, des infirmiers et infirmières, où on lit là-dessus. Si vous allez sur le site, là, allez voir, il y a des témoignages de travailleurs de la santé. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y a encore des mesures qui ne sont pas suivies. Alors, on va en discuter avec des invités. Je vous présente tout de suite Lynne Rémillard, qui est de la FADOC. Bonjour, Lynne.
Bonjour.
Directrice générale adjointe du réseau FADOC, là, qui touche beaucoup de gens d'un oui. certain âge. Lynne, avec nous également le docteur Joseph Dayen, qui est intensiviste, directeur médical à la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique au CIS de Laval. Bonjour, docteur Dayen, merci d'être là.
Bonjour.
Alors, je pose la question à tous les deux. Je vais commencer par Lynne, vous me permettrez. Est-ce qu'on protège oui. assez les gens âgés, Lynne Rémillard?
Écoutez, est-ce qu'on protège assez? Moi, je pense que ce qui est possible de faire, c'est probablement fait. Sauf que c'est avec les moyens qu'on a, les moyens de bord. On entend dire qu'on manque de personnel, de personnes ressources. On entend dire qu'on manque aussi d'équipement, de matériel. Alors, c'est sûr que ça ne doit pas aider la situation. Nous, la question qu'on se posait aussi, c'est comment le virus rentre une première fois dans une résidence pour aînés? Est-ce qu'il y a une petite enquête, une enquête qui se fait pour savoir comment le virus est rentré? Tu comprends, on fait des tests, ça prend 2-3 jours. Tu sais, la situation est loin d'être rose. Mais des fois, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est sûr qu'il faut que les consignes, hein, on le dit tous. Puis même dans les résidences, il faut que les consignes soient suivies. Là. Le lavage de mains est essentiel. Mais j'imagine que ça se fait. Je peux pas croire qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. Les dirigeants des
mais il y en a, Lynne. C'est là où le bas blesse, entre autres. Il y en a encore trop des lacunes, là.
Ben c'est pour ça que je m'en venais à dire que les dirigeants de ces ont un rôle crucial à jouer. Il faut qu'ils soient rigoureux, il faut qu'ils comprennent les enjeux, puis il ne faut pas qu'ils aient peur de poser les gestes qui doivent être posés. Tu sais, on entendait dire hier qu'il y avait des personnes qui passaient d'un étage à l'autre parce qu'il manquait de personnel. Mm-hmm. Ben ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Moi, des fois, ce matin, je me disais peut-être que des bénévoles. Donc, on pourrait peut-être faire appel aux bénévoles ou aux proches aidants. On voulait pas en premier parce que c'est clair, on voulait éviter tous les moyens de propagation. Mais là, ça va être quoi, là, moi, je vais dire comme M. Legault ou le docteur Horacio, c'est quoi le moins pire des deux? Tu sais, peut-être faut faire qu'on ouvre avec des nouvelles idées.
Oui. Docteur Joseph Dayen, votre opinion là-dessus? Est-ce qu'on protège assez nos gens âgés? Poser la question, c'est malheureusement un peu y répondre par les temps qui courent.
Oui, mais en même temps, quand on met ça de façon plus relative, personne n'est à l'abri. C'est une pandémie, hein? Puis je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, bon, ça donne que le virus a une prédilection pour les personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées, les diabétiques, les gens atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques, les coronariens. Bon, on voit ces problèmes médicaux-là, évidemment, plus souvent, plus l'âge augmente, plus on les voit. Donc, c'est un concours de circonstances malheureux qui fait en sorte que, oui, les personnes âgées sont plus vulnérables et ce virus-là fait plus de dommages chez cette population-là. Mais la seule façon de les protéger, c'est que tout le monde comprenne que comme individu, qu'on ait 15 ou 75 ans, en se protégeant, en s'isolant, on protège les personnes âgées, on protège les gens autour de nous. Et c'est plate, j'ai pas de bonne nouvelle, j'ai pas de solution miracle, mais la réalité, c'est que on dit souvent que la prévention vaut mieux que le traitement. Ben ici, c'est un peu plus important de le dire parce qu'il y en a pas de traitement. Fait que tout est axé sur la prévention, et ça, c'est le confinement et l'isolement.
Oui, mais malheureusement, on voit là que c'est un peu comme une passoire. Ça rentre, ça sort, que ça soit... puis on l'a vu, là, il y a 400 résidences pour aînés au Québec où il y a présence de COVID-19. J'écoutais Pierre Blain ce matin, puis on va lui parler tout à l'heure là, des usagers de la santé qui disaient que la moitié de ces résidences au Québec sont touchées. C'est pas rien. Puis 85% des gens qui sont là-dedans ont des problèmes cognitifs, donc une incapacité plus ou moins grande à communiquer leurs besoins. Dans un contexte comme celui-là, on comprend qu'on parle de milieu de vie là, pour les gens âgés, mais là, c'est en train de se transformer. On veut pas que ça devienne des milieux de mort non plus, là.
Mais il faut pas oublier que la ministre Blais a mis 133 millions de dollars pour justement aider, c'est pour avoir plus de personnel, pour éviter que les gens rentrent et sortent. T'sais. Il y a quand même des gestes qu'on pose. Est-ce que c'est suffisant? On pense pas, d'après ce qu'on voit. Mais moi, je me dis, on néglige pas. T'sais, si vous me posez la question, est-ce qu'on néglige les aînés? C'est non. On néglige pas. Les gens qui ont des gestes à poser, les posent. Là, maintenant, d'où ça vient, la négligence? Ben là, c'est peut-être à l'intérieur de ces édifices-là qu'il faut qu'on se pose la question, qu'on se fasse une petite prise de conscience.
Fait que donc, c'est le personnel, d'après vous, qui met en danger aujourd'hui? Ou parce que là, les proches, ils sont... En théorie, il n'y en a plus de proches là qui rentrent là-dedans, là.
Ben moi, je veux pas
à moins d'être en fin de vie, là, on a compris, à moins d'avoir un parent vieillissant qui est en fin de vie, qui est aux soins palliatifs, là, effectivement, on a le droit on a une personne de la famille qui peut assister aux dernières heures d'un proche. C'est bien ça, docteur Joseph Dayen, mais sinon, les règles à l'intérieur devrait être suivi. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est les travailleurs de la santé? Est-ce que c'est les préposés aux bénéficiaires? Le gars qui passe la MOP? Il y a bien du monde, finalement, malgré tout, qui peuvent rentrer
et
sortir.
Mais en fait, en me passant la POC, je me permets de dire que ces gens-là font preuve d'un dévouement là, qui est remarquable.
Clairement,
parce qu'ils
ont
peur pour eux aussi, mais ces gens-là se présentent au travail et deviennent la seule famille, vous l'avez dit, il n'y a plus de visite. Donc, dans un sens, ils deviennent la famille de ces personnes qui sont en résidence isolée, solitaire, en personne âgée. Donc, au contraire, le fait qu'ils se présentent, les personnes âgées dépendent sur ce personnel-là. Ouais. Dans d'autres endroits, ailleurs dans le monde, il y a des gens qui ont déserté des résidences pour personnes âgées et ces gens-là sont effectivement ont été abandonnés. Donc, on n'assiste pas à ça ici et je pense qu'il faut le souligner, puis il faut être fier du personnel. Maintenant, pour répondre à la question, comment ça se fait avec toutes ces mesures-là, en des gardes de sécurité puis de visite, qu'il y a encore des transmissions, il faut réaliser que d'un point de vue épidémiologique, le tableau qu'on a aujourd'hui, c'est celui peut-être c'est un effet boule de neige. C'est peut-être celui d'il y a deux semaines, dans la mesure où la période d'incubation pouvant aller jusqu'à 14 jours, c'est pour ça qu'on demande aux gens de s'isoler pendant 14 jours, à partir du moment où le virus est rentré il y a 14 jours, hein, rappelons-nous, est-ce qu'il y avait autant de restrictions il y a deux semaines? Pas tant que ça, ou peut-être que non, ou peut-être que les gens dans la population banalisaient encore les moyens que le gouvernement voulait qu'on prenne. Donc, à partir du moment où le virus est rentré, Bien, ensuite, c'est un milieu de vie, vous l'avez dit, Isabelle. Il peut ensuite créer un effet boule de neige de contamination.
Oui, parce
à mon avis,
ouais.
On n'aura pas, on va pas cesser d'avoir d'autres mauvaises nouvelles comme celle-là où on va avoir d'autres foyers d'éclosion, malheureusement.
Oui, et puis on a entendu le cri du cœur de bien. Vous avez raison, Dr Daine, de parler du personnel de la santé qui a peur en ce moment et qui fait preuve de dévotion. Je pense qu'il faut le redire, que ce soit médecin, que ce soit infirmier, infirmière, que ce soit tous ceux qui donnent des soins qui sont dans ce cadre-là. Ça vous inclut, merci. Mais je vous parle, je prends par exemple un des témoignages qui est sur le site Je dénonce. Là, je le parcours depuis hier, puis je vous avoue que ces témoignages-là sont incroyables. Il y a quelqu'un là, qui travaille comme en entretien ménager qui dit plusieurs employés qui ont travaillé dans l'hôpital. Il fait partie du 6 de la Montérégie Est. Plusieurs donc employés qui ont désinfecté les urgences, les chambres, autres endroits contaminés ou potentiellement contaminés par la COVID-19, sont ensuite allés travailler dans des CHSLD. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être éviter. Je sais que la ministre de la Santé, Danielle McCann, a dit « Je vais y voir, on va y voir, je veux qu'on me tienne au courant, s'il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir. » Mais ça, là, ce genre d'exemple-là, tous les jours, on le traîne, cet exemple-là. Quand est-ce qu'on va intervenir pour dire « Bon, ça, ça se peut pas. Il faut peut-être confiner les travailleurs de la santé » dans un endroit, que l'entretien ménager peut pas être fait d'un endroit à l'autre par les mêmes personnes. Là. Ça peut pas être des équipes volantes qui vont désinfecter. Au niveau, vous, là, qui êtes dans l'organisation, justement, la qualité, l'évaluation, la performance, l'éthique, est-ce qu'il n'y a pas là une matière d'intervention plus directe? Docteur Dayan?
Le premier, c'est qu'on le fait. La directive, elle est claire. Tous les établissements de santé doivent être divisés en zones chaudes, tièdes et froides. Froides, il n'y a pas de COVID, chaudes, il y en a, puis tièdes, ben, ils sont en dépistage. À partir du moment que ces zones-là sont bien délimitées, les travailleurs de la santé ne doivent pas sortir de l'une ou de l'autre des zones sans avoir...
Mais ceux qui font le ménage, par exemple, qui lavent,
ben,
qui désinfectent...
Donc, s'ils rentrent dans un endroit où c'est COVID positif, ils ont leur équipement de protection... Quand ils sortent, lavage, on sort pas avec le même uniforme, on sort pas avec les mêmes vêtements. Donc, à partir du moment où les gens sortent et se lavent complètement, puis ils ramènent rien de ces unités-là, c'est correct. Le deuxième volet à cette question-là, c'est, ben, effectivement, au fur et à mesure où la pandémie se propage, les gens vont devenir porteurs ou tomber malades, on va avoir un problème de ressources humaines.
Bien, clairement.
Et ça, j'avoue que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que l'alternative, c'est d'envoyer personne, c'est pas mieux.
Non.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur CV, les bénévoles, on ramène les gens de la retraite, mais ça ne change pas le fait que si effectivement la pandémie atteint de 30 à 70 % de la population, telle que toutes les agences de santé publique le disent, ben, à ce moment-là, on est tous à risque de le pogner à un moment donné. C'est des gens qui, pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, pourront pas rentrer travailler. Donc, il va y avoir une pénurie et ça va créer des besoins sur le terrain. De là, l'importance encore plus de souligner l'importance de l'hygiène des mains, les protections universelles, le dévouement des gens sur place,
ouais,
puis la créativité des gens sur place.
Ouais, la créativité inclut se patenter son propre masque, comme cette infirmière qui s'est fabriqué un masque avec un filtre d'aspirateur, mais c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Il faudrait qu'il y ait des masques pour tout le monde. On va revenir d'ailleurs sur cette pénurie de masques d'ici 3 à 7 jours, nous a dit François Legault hier. C'est pas encourageant du tout. Toutes nos lignes sont pleines. Je vous redonne nos numéros dans les régions qui nous écoutent. Vous faites le 1-866-790-9850. À Montréal, c'est le 514-790-9850. Dites-moi si vous êtes inquiet pour les gens âgés ou pour vous-même. Là, puis ce que vous voyez dans certaines résidences, bien sûr. On va poursuivre avec nos invités. Il va se rajouter aussi un commentaire de Pierre Blain. Et puis vos commentaires à vous tout de suite après ceci. On s'inquiète de la santé des aînés, en particulier ceux qui sont dans les résidences au Québec où le coronavirus se répand, se propage, continue de se propager malgré tout ce qu'on dit. C'est sûr qu'il y a une pénurie de matériel médical, notamment des masques d'ici 3 à 7 jours dans le réseau de la santé. 3 à 7 jours, il y a déjà une journée qui est passée hier, il en reste, c'est comme, ça va vite là. Alors évidemment, vous avez compris, il y a 2 milliards de dollars qui ont été libérés par le gouvernement fédéral pour acheter des masques, entre autres, faire en sorte que les compagnies canadiennes en fabriquent. Mais il faut le donner temps aux choses d'arriver. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu ici, cette pénurie de matériel qui pourrait faire effectivement très mal. Il y a même des médecins qui disent, est-ce qu'on va être obligé de refuser de traiter certains patients s'ils représentent une menace? C'est là où on va peut-être en arriver et c'est malheureux. Ce sont des questions éthiques extrêmement importantes. On a Robert qui est avec nous. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour Isabelle.
On vous écoute.
Oui, moi je suis émotif quand je parle de ça, parce que nos gouvernements font tout ce qu'ils peuvent. Mmh. Les préposés, le personnel dans le réseau de santé font tout ce qu'ils peuvent. Puis il y a encore du monde, là, on va les appeler des caves, qui suivent pas les consignes à la lettre, qu'ils ont pas suivies depuis le début, qui transportent le virus. Encore ce matin, j'ai vu 24 personnes dans une résidence en Gaspésie qui sont infectées. Mmh. Le virus, puis là, j'ai mis un post là-dessus sur Facebook. Tout le monde dit que je parle contre le personnel. Je parle pas contre le personnel. C'est les personnes qui n'ont pas suivi les consignes qu'on fait, que quelqu'un du personnel l'a attrapé, puis il est rentré travailler sans
voilà,
savoir, puis il n'a pas pu aider le monde. Moi, je dis, on nous dit depuis le début que se laver les mains, faire tout ce qu'il faut, c'est sauver des vies. Mais ne pas suivre les consignes à la lettre telles que M. Legault les a dit, ça tue du monde. Ceux qui ne les suivent pas, là, assumez vos responsabilités, vous tuez du monde. Mm. C'est-tu clair, net et précis? Des tueurs. Mm. En terminant, je salue Pierre Blais à qui vous allez parler bientôt. Mm. Parce que Pierre Blais, il doit prendre ça très à cœur. Oui. C'est un homme qui s'est occupé des aînés au regroupement des usagers, etc. Est-ce que les gens ont compris? Vous ne suivez pas les consignes, vous tuez du monde.
Merci,
des
Robert.
Des tueurs.
Mmh. Oui,
merci Isabelle.
Merci à vous. Nathalie, vous êtes assistante justement en soins de santé, en particulier aux aînés. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre quotidien depuis les derniers jours? Là?
Moi, je vois beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse. Je peux vous dire que toutes les ASS qui travaillent souvent rentrent en pleurant, mais on a toujours l'idée d'aller aider les gens à domicile. Donc, on parle pas souvent des ASS, on nous inclut avec les préposés, félicite les préposés aussi. Sauf que les ASS, nous, on va à domicile.
Assistante en soins de santé.
Soins de santé. Assistante en soins de santé. On était un petit peu plus formés de beaucoup de choses à la loi 90 que les préposés ne font pas. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que nous, présentement, on n'est pas autorisé à porter des masques à domicile. Comme vous savez, on est à côté sur les lits. Ouais. On n'a pas de jaquette encore. Je trouve que nous, on est toujours les oubliés de la société, du système de santé. Mais ce que je peux dire, c'est que ils ont coupé beaucoup de soins à domicile et c'est correct. Il y a des gens qui peuvent avoir de la famille ou quelqu'un qui peut s'occuper d'eux. Souvent, ils demeurent avec leurs enfants ou souvent, ils demeurent des sœurs et des frères ensemble et tout ça. Donc, moi, ce que je déplore beaucoup, c'est le manque aussi de communication. Mmh. On a les communications du gouvernement, point final. Les réunions, on n'a pas de réunion téléphonique, on en a eu une depuis que c'est commencé. Une réunion téléphonique, toute la gang ensemble. Donc,
puis on vous a dit quoi là-dedans?
Comme en première ligne. On répète ce que le gouvernement a dit, simplement. Aucune personne est là pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous encourager. On fonctionne à personnel réduit, là.
Ouais.
À de la moitié de notre personnel habituel. Donc, on est surchargé. Et c'est ça, je voulais juste mentionner de donner un petit mot pour les ASS que nous...
On va essayer de vous encourager. Je vais essayer de le faire, moi, au nom des auditeurs, auditrices, c'est sûr. Merci, Nathalie, et toutes vos collègues, toutes les assistantes en soins de santé. Beaucoup de femmes, j'imagine, il doit y avoir... Est-ce qu'il y a un peu d'assistants aussi en soins de santé? Il y a des hommes aussi?
Très peu. Une minorité.
Et vous avez des collègues qui pleurent malgré tout en allant parce que vous vous sentez en danger, c'est ça?
Oui.
Pas de masque. Et ça, on le dit sur les. Éventuellement, les masques sont gardés là, pour des clientèles justement d'intervenants prioritaires. On parlait de ceux qui sont les chirurgiens, entre autres, en particulier. Merci, Nathalie. Je vais me tourner vers le docteur Dayen, docteur Joseph Dayen, qui est intensiviste, directeur médical à la direction de la qualité de l'évaluation de la performance éthique au 6 de Laval. Docteur Dayen, on a vu hier l'explication de M. Arruda, de François Legault, en ce qui concerne le fait qu'il fallait à tout prix économiser nos masques, parce qu'on fait face à une pénurie, en tout cas à court terme. Et là, on vient d'entendre Nathalie qui dit « Moi, j'interviens auprès des gens âgés, je vais chez eux, mais je ne porte pas de masque parce que je n'y ai pas droit. Je ne suis pas dans les travailleurs de la santé qui ont le droit. » Et ça inquiète beaucoup. Il y en a plusieurs comme elle là, qui vivent la même chose. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que vous comprenez là, cette situation-là? Est-ce que c'est médicalement, là, est-ce que c'est bien normal que Nathalie n'ait pas de masque, par exemple, quand elle va traiter des gens âgés chez eux?
Il n'y a rien de normal dans ce qu'on est en train de vivre là, au niveau mondial. Et je pense que
c'est
les chiffres sont à un niveau incroyable et ça crée des situations difficiles, voire inacceptables, dans lesquelles certaines personnes se placent. Je veux dire, la réalité, c'est que pour les gens qui sont asymptomatiques, l'équipement de protection, des masques ou quoi que ce soit, pas nécessaire si on fait l'hygiène des mains, si on fait attention, puis on garde la distanciation. À partir du moment où effectivement on travaille avec une population vulnérable, le virus est invisible, il y a des gens qui on sait peut-être sont porteurs, puis si ces patients-là arrivent sans équipement, ben c'est inacceptable. Puis le premier ministre Legault l'a dit hier, puis le docteur Arruda aussi. On veut pas placer les gens dans une situation où ils doivent donner des soins sans la protection. Faut pas faire les cow-boys non plus, même si on est en situation de pénurie. C'est le nerf de la guerre, effectivement, l'équipement de protection. Écoutez, je pense qu'à long terme, éventuellement, peut-être qu'on va regarder ça en rétrospective, on va dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Je pense qu'on peut se projeter dans un futur où s'il y a assez de monde qui l'ont eu, ces gens-là vont avoir des anticorps et vont être protégés, vont pouvoir donner l'équipement, les soins sans équipement. On n'est pas encore rendu là, mais c'est peut-être un scénario que les scientifiques effectivement considèrent, commencent à étudier. Est-ce que quelqu'un qui l'a déjà eu va être immunisé, va pouvoir donner des soins sans avoir besoin de porter tout l'équipement comme vous voyez dans les nouvelles en Italie ou en Chine? Ça sera à voir.
Ouais, puis ça, c'est à moyen terme, là, considérant que ceux qui l'ont, travailleur de la santé qui l'aurait attrapé en aurait guéri et donc serait capable de continuer à travailler. Ouais, là, on est dans
les gens qui qu'on leur demande de donner des soins à une population porteuse de COVID sans protection, ben c'est pas acceptable. Ils doivent effectivement aller en parler à leur supérieur pour que mais les gens savent que cette situation-là existe. Est-ce que, je trouve
c'est pas acceptable, mais là, c'est pas acceptable, vous dites, docteur Dayen, mais en même temps, quand t'as pas le choix, t'es obligé de l'accepter.
Ben c'est ça, exactement. Mais là, je trouve beaucoup de réconfort dans le point 13 du premier ministre hier, que regardez, c'est le seul sujet, ça, puis appelez-vous des aînés en isolement parce que leur dire qu'on les aime puis qu'on pense à eux, c'est pas mal les deux seuls sujets de la conférence de presse, donc c'est à l'agenda, c'est priorité numéro un du gouvernement. Donc, je trouve beaucoup de réconfort, moi, comme personnel du réseau de la santé, de savoir que quelqu'un travaille là-dessus puis qu'on va avoir quelque chose bientôt. Là.
Mm-hmm. On a Lynn Rémillard qui est avec nous, puis je veux la saluer, Lynn, mais je voudrais vous donner un petit mot là, de conclusion par rapport à tout ce qu'on dit en ce qui concerne justement les mesures de protection, entre autres.
Écoutez, moi, je vais plutôt faire du chemin sur les aînés qui sont à domicile, aînés qu'on peut appeler, parce que nous, à la FADOC, on en a des aînés, on a plusieurs personnes de 60, des membres de 70 ans et plus. Et on a mis un programme en place, une opération qu'on appelle « Prenez soin des autres ». Et les gens appellent les personnes de 70 ans et plus.
Ah oui.
On parle de 200 000 personnes presque là, dans notre réseau. Mais ça a commencé, on a fait les 90 et plus, les 80 et plus. Et les gens apprécient énormément recevoir un appel. On est capable de détecter s'il y a vraiment une détresse ou s'il y a quoi que ce soit. Alors ça, je pense que c'est quand même les gens qui sont à domicile, on fait un petit bout de chemin, de la proximité, puis on met notre réseau à contribution.
Est-ce que les gens qui nous écoutent, Lynn Rémillard, peuvent participer à ça, là, s'il y a des gens qui se sentent une bonne âme, là, puis qui ont envie de dire hey, « Moi, là, j'en ferais une coupe d'appels aujourd'hui. Là. J'ai une heure de mon temps où je peux appeler des aînés, leur demander quel est leur état de santé. » Est-ce qu'on peut participer à l'effort que vous faites?
Bien, c'est un peu difficile, je vais vous dire pourquoi, parce que toute la confidentialité des listes
ouais,
de
comprends.
Noms.
Okay.
Alors là, nous, on est organisé en conséquence, mais inquiétez-vous pas, il n'y a personne qui est négligé. Je voulais juste ajouter aussi, parce que je veux faire certain que personne n'a compris dans mon propos que je blâmais qui que ce soit dans les résidences.
Non, on a bien compris ça.
Mais savez-vous ce qui m'a surpris, c'est ce que le docteur a dit. L'organisation dans le système de santé, là, ils sont bien organisés. Je suis pas certain que dans les résidences, ils se sont organisés à ce point-là. Il n'y a personne de la santé dans une résidence, un directeur de santé. Lorsqu'on parlait de la personne qui fait le ménage ou quoi que ce soit, tu sais, il y a des façons qui ont été organisées qui sont extraordinaires dans le système de santé. Mais peut-être qu'il faudra en donner des idées aux personnes qui organisent les résidences.
On le sait tous, puis voilà. Pierre Blain va nous parler dans quelques minutes, il pourra le confirmer. Même avant cette crise du coronavirus, il y avait des problèmes majeurs dans certains CHSLD, dans certaines résidences. Imaginez aujourd'hui, c'est clair que on comprend là, que ça peut juste être pire. Lynn Rémillard, merci beaucoup, directrice générale adjointe du réseau FADOC. On va aller à la pause, on revient avec vos commentaires, Dr Dayen et Pierre Blain des usagers du Québec. On se remet en tête justement extrait de la conférence de presse de François Legault d'hier.
Il y a des inquiétudes partout que si la montée se poursuit au cours des prochaines semaines, on va être serré dans les masques. Il faut une utilisation judicieuse des masques. Là. Donc, d'un côté, on veut protéger, mais utiliser des masques quand c'est pas nécessaire, ben ça aide pas personne. Là.
Alors voilà, ça c'était hier en conférence de presse de François Legault. Il y aura un point de presse que nous allons diffuser comme d'habitude à 13h aujourd'hui. En ce moment même, ben, c'est le point de presse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Annie Guillemette fait le point de Cogeco Nouvelles. Bonjour Annie.
Bonjour Isabelle.
Donc on parle ici, Justin Trudeau vient de le dire, là, c'est une mobilisation nationale là, qui est mise en branle pour le matériel médical en particulier et Ottawa confirme qu'il va aider le Québec.
On va aider, on va faire notre gros possible, mais il n'y a pas de garantie possible en cette matière pour l'instant. On avait posé la question hier aux autres ministres fédéraux. On n'avait pas pu obtenir de garantie. Même son de cloche du côté du premier ministre aujourd'hui. On écoute Justin Trudeau.
Dans cette situation, on ne peut rien garantir. On est en train de travailler extrêmement fort pour combler les différents besoins, pour assurer que l'équipement nécessaire soit bien distribué à travers le pays qui arrive d'outre-mer, qu'on va pouvoir développer des solutions ici au Canada pour remplacer l'équipement qu'on utilise à tous les jours pour sauver des vies, pour garder nos travailleurs de notre système de santé en santé.
Donc, le premier ministre a répété là, qu'on travaillait tout le monde dans le même sens à propos de l'équipement médical.
On ne peut rien garantir.
On ne peut rien garantir. Donc,
cette valeur
on fait
qu'on
tout
est
ce qu'on peut.
Ouais. Mais... Et là, je pense aux 16 tonnes de matériel envoyées par le fédéral en Chine au mois de janvier.
Aide communautaire, aide humanitaire qui avait été faite
il y a quelques semaines. Celle-là, mettons qu'on pensait que ça ne traverserait pas les frontières.
Quelques questions avaient été posées au premier ministre là-dessus il y a quelques jours.
Il y a quelqu'un qui va poser la question en ce moment, là.
C'est ça. Et on aura d'autres détails aujourd'hui sur les fameuses mesures d'aide, la subvention, les critères, tout ça. Ce que le premier ministre a répété au cours des dernières minutes, là, c'est que les gens devront choisir entre obtenir le 2000 $ en assurance emploi, la prestation d'urgence, ou encore faire subventionner leur salaire et continuer à travailler. Ce sera des décisions qui seront prises là, à la pièce par les dirigeants d'entreprises canadiennes. On aura les détails avec les ministres concernés plus tard aujourd'hui.
Merci à Guillemette. Je te laisse continuer d'écouter le point de presse de Justin Trudeau. On a justement des auditeurs qui sont nombreux à vouloir intervenir. On parle des gens âgés. Puis là, en plus, ça confirme que cette mobilisation nationale pour le matériel médical est en branle. Ottawa qui veut aider le Québec, mais on ne peut rien garder. Bonjour Pascal, à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre là, de la part de Justin Trudeau, vous vous sentez comment? On n'est pas plus rassuré, visiblement.
Ben moi, selon moi, je pense qu'on est rendu à une étape où, à l'extérieur, lorsqu'on sort à l'extérieur de nos domiciles, on devrait porter en tout temps des masques. S'il n'y en a pas présentement, étant donné qu'il y a un manque, il existe des masques de fortune qu'on peut se faire à la maison, selon moi. Puis ensuite de ça... toutes les personnes à l'extérieur, comme les services essentiels, les camionneurs qui rentrent des États-Unis, devraient porter le masque en tout temps.
Oui.
Parce que c'est une façon de ne pas propager le virus. Évidemment, c'est pas aussi bon pour la personne qui le porte, qui peut le contracter, mais si la personne ne sait pas qu'elle est porteuse,
Mais comme l'a dit, merci Pascal, mais en même temps, le port du masque, Horacio, je me souviens de ce qu'il disait, puis il le dit un peu tous les jours, il va sans doute le répéter aujourd'hui. Il n'y a rien contre ça, vous pouvez vous patenter un masque, mais il faut pas penser que vous êtes privé de vous laver les mains. Au contraire, il continue de dire que le lavage des mains, plus de 20 secondes à l'eau chaude, savonneuse, sans oublier aucun espace de vos mains, ça reste le meilleur moyen de se décontaminer potentiellement de ce qu'on aurait pu attraper en touchant quelque chose. On a Nicole rapidement qui nous appelle. Bonjour Nicole.
Bonjour ma belle Isabelle. Je crois que ce que moi j'aurais à dire là, ça va toucher pas mal tout le monde ce qu'ils vont pouvoir vous dire aujourd'hui là. Premièrement, docteur pas Horacio, mais le ministre Legault, il disait nos anges gardiens. Moi, à chaque fois que j'étais à la résidence de mon père, je leur disais aux petites madames, vous êtes des anges. Je pense qu'il me l'a volé, celle-là. En tout cas, j'espère que vous allez me laisser parler assez longtemps.
Sincèrement, Nicole, j'allais vous dire vite, rapidement, parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent intervenir, puis j'ai Pierre Blain là, qui est là.
Moi, je l'ai vu venir, celle-là. Ça fait longtemps, OK?
Vous êtes bien la seule parce que personne ne l'a vu venir.
Justement. Il y a bien des choses que j'ai vu venir, puis c'est bien bizarre que le gouvernement ne le voyait pas. En tout cas, moi, je parle pour mon père, là. J'ai gardé mon père pendant 2 ans chez lui, jour et nuit. Je restais là. Je ne sortais pas. Donc, le confinement qu'on vit aujourd'hui, je suis domptée à ça.
Voilà. On l'a perdu?
Que je suis confinée. Et moi, j'avais dit, garde, les préposés qui travaillent là, eux autres, ils rentrent, puis ils sortent, puis ils rentrent, puis ils sortent.
Ouais.
Mais j'ai dit, moi, là, pourquoi que j'aurais pas le droit d'aller prendre soin de mon père? Parce que moi, j'ai pas d'été en voyage, j'ai pas de symptômes, puis je vais aller prendre soin de mon père. Parce que même
C'est intéressant, Nicole. Vous me permettrez, merci beaucoup de votre appel, vous me permettrez donc d'en discuter de ça. Parce que c'est une question, effectivement, Nicole a raison. Beaucoup de gens se la posent. J'ai pas de symptômes, je suis pas malade, je fais attention, j'ai été confinée, je touche à rien. Bon, il y a des gens qui disent, qui pensent comme ça, qui sont pas porteurs, tant mieux. Mais ont-ils le droit, Pierre Blain est avec nous, d'aller voir leurs personnes âgées dans les centres, dans les résidences pour aînés? Pierre Blain, du comité des usagers de la santé du Québec. Hein, c'est bien ça votre nouveau nom, Pierre Blain?
Oui, les usagers de la santé du Québec.
Voilà, merci d'être là, Pierre. Vous avez été longtemps, justement, au comité d'usagers dans les...
Et je le suis encore.
Voilà. Est-ce que Nicole, quand elle pose la question, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de continuer de m'occuper de mon père en résidence, qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
C'est la question que tout le monde me pose. Je reçois énormément de commentaires, les gens me téléphonent, les gens m'écrivent, et on me dit... Je pourrais continuer à le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Donc, la question est importante. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'il y aurait des moyens de contrôler, justement, les entrées à l'intérieur. Pourquoi moi, Pierre Blain, des usagers de la santé du Québec, je reçois des appels de de professionnels qui nous disent on a des moyens de détecter, mais on ne veut pas nous écouter. Alors, il existe des moyens.
Qui dit ça, Pierre Blanc?
Des professionnels, des fabricants, des gens comme ça. Vous souvenez-vous quand ça a commencé en Chine, où on voyait dans les rues des gens qui se promenaient avec des thermomètres et qui prenaient la température de tout le monde?
Mm-hmm.
Donc, on contrôlait. On nous offre, il y a des compagnies qui nous disent on pourrait le faire facilement et on pourrait le mettre en place rapidement. Je pense que c'est ça un bon moyen, peut-être, pour éviter...
OK, mais à la question, oui. Quelqu'un là, qui s'occupait jusqu'à récemment oui. De son proche aîné dans une résidence, aujourd'hui, il ne peut plus le faire, ça?
Non, impossible, il ne peut plus rentrer.
Voilà, c'est ça, là, c'était ça la question, puis c'est ça que beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est encore possible? La réponse, c'est non. Parce qu'on veut éviter la propagation.
Oui,
devant autant, je vous entendais plus tôt ce matin dire, c'est la moitié des résidences du Québec qui sont touchées, oui. C'est bien et bien ça?
Ah oui, plus que la moitié. Parce qu'il y a à peu près 300 CHSLD, je fais une précision, CHSLD. Il y a à peu près 300 CHSLD au Québec, il y en a actuellement 180 qui sont affectés. Donc, on ne les a pas protégés à l'intérieur, même en faisant ces mesures de confinement-là. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont été infectés par des visiteurs, bien sûr. On l'a vu dans les premiers cas, à Sherbrooke, entre autres. Mais par la suite, là, maintenant, là, c'est autre chose. Là. Ça veut dire que c'est une propagation communautaire, comme on l'appelle.
On fait quoi, alors, d'après vous, Pierre Blanc?
Bien, justement, il faut d'abord mettre des mesures à l'intérieur pour isoler les cas. J'ai un cas, là, j'ai reçu un courriel d'une madame qui pleure parce que, justement, sa mère est dans une chambre à deux et l'autre personne à côté d'elle a le COVID-19 et on ne l'a pas isolée. Donc, il faut déjà, à l'intérieur des CHSLD, prendre des mesures d'isolement pour les personnes qui sont atteintes.
Et pourquoi on n'isolerait pas quelqu'un comme ça? C'est qu'il manque d'espace?
Je ne sais pas. On n'a aucune information. C'est le silence radio partout dans le réseau. On n'est pas capable d'avoir d'informations. Les comités ne sont plus présents et il n'y a pas de communication faite par les directions. Alors moi, c'est ce que je demande. Je pense qu'on a beau avoir le premier ministre qui vient nous parler à tous les jours, il faut que dans chacun des établissements, on fasse mention des cas qui sont présents. Quelles sont les mesures d'isolement qu'on met en place? Et ensuite de ça, comment pouvons-nous rassurer la population pour nous dire, votre personne, vous, là, votre mère ou votre père, là, il n'y en a pas de problème, tout est en place et ils vont bien. On devrait faire des communications comme ça à tous les jours, tous les deux jours.
Des sortes de registres des gens là, qui ont été infectés. Je pense qu'il y a quelques endroits où ça se fait, mais ce n'est pas une directive qui est officialisée. Merci beaucoup, Pierre Blanc, des usagers de la santé du Québec. On s'arrête ici. On va conclure avec le docteur Joseph Daïn et quelques-uns de vos commentaires. À tout de suite, tout le monde. On a Nancy qui travaille dans un hôpital et qui est inquiète. Bonjour Nancy.
Bonjour Isabelle. Écoute, je vais essayer de faire ça rapidement. Moi, je suis en troisième ménager dans un hôpital. Puis hier, je me suis rendu compte que la personne de la cuisine qui vient livrer les petits camions avec les cabarets pour les lunchs dans les pavillons, c'est la même personne qui va dans tous les pavillons. Dans le mien, c'est un pavillon de confinement où il y a du COVID-19. La personne vient livrer, elle n'a pas de masque. Puis elle garde ses mêmes gants toute la soirée, puis elle va livrer les lunchs dans tous les pavillons. Mmh. Puis les gens qui travaillent dans la cuisine, ils portent pas de masque. Donc, ils préparent les assiettes sans avoir de masque. Les cabarets, comment ça roule, c'est sur une bête-line, comme un petit peu comme chez une caissière. Mmh. Puis ils sont tous juste à côté, puis ça jase, puis ça remplit les assiettes et tout. Puis j'ai jasé avec eux, puis ils m'ont dit, ben notre gestionnaire nous a dit, exagérez tout, vous n'avez pas besoin de masque, exagérez tout. Mais hier, j'ai sonné l'alerte rouge avec le gestionnaire de mon pavillon qui a sonné l'alerte rouge à tout le monde. Puis que là, aujourd'hui, il va y avoir une grosse discussion avec ce gestionnaire-là parce que c'est...
Ah, mais ça, c'est à
c'est la pointe. Là, il va emmener ça partout, dans tous les pavillons. Là.
Ouais.
Donc, ça, les masques, c'est pas juste nécessaire pour les gens qui travaillent en santé directement.
Exact.
C'est nécessaire à la cuisine au départ.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Nancy. Puis je comprends votre désarroi. Puis on sent la colère un peu chez Nancy. Et surtout, les gens encore qui disent, on le disait d'entrée de jeu tout à l'heure, ceux qui comprennent pas, là, puis qui disent, voyons, le monde exagère, là, ceux qui disent qu'il faut faire attention. Non, ils exagèrent pas. il. C'est pas de bon sens penser ça. Robert, bonjour. Vous êtes...
Bonjour. Moi, ma fille travaille à l'hôpital. Mon gendre travaille à l'hôpital. Mm-hmm. On reste dans le même duplex. Je m'occupe de ma femme qui est en soins palliatifs. Il y a une infirmière qui vient à la maison. Qui vient à la maison une fois de temps en temps parce que je fais quoi? Je dis à l'infirmière, non, je veux pas vous voir. Ma femme, elle descend tranquillement. Elle descend très tranquillement.
Vous voulez dire, elle perd ses capacités, là. C'est ça que vous voulez dire. Elle s'épuise.
Oui. Peut-être vous allez vous en souviendrez peut-être pas, mais j'avais appelé parce qu'il avait dit qu'il était pour venir aveugle cause.
Donc là, vous voulez savoir, est-ce que...
Je fais quoi, là? Je dis à l'infirmière, non, venez pas, moi, vous donner une nouvelle parce qu'elle appelle avant de venir, elle a cette décence-là.
Oui, tout à fait.
Mais je voudrais passer un message à toute mon hostie de génération qui n'a pas l'air de comprendre. Restez chez vous. Écoutez, moi, dans ma propre famille, là, on est 5 couples âgés. Il y a 2 couples qui continuent, pareil comme si rien n'était, reçoivent leurs enfants à souper. Écoutez, Chris, je viens mauvais.
Ouais, je vous comprends.
Excusez mon langage.
Je vous comprends, Robert. Si vous saviez le nombre de sacs que je lis dans les courriels que le monde m'envoie, je comprends. Écoutez, c'est incompréhensible, cette négation du problème. Sincèrement, là, c'est ça. Ils exagèrent. C'est pas vrai que c'est si pire que ça. Si on est pour le pognon, on voit le pognon, on aura des anticorps. C'est ça qu'on entend. Faut-tu être assez colon? J'ai le docteur Dayen qui est avec nous. Docteur Dayen, êtes-vous découragé, des fois, de l'attitude de certaines personnes?
Ben, je pense que j'ai la même attitude que beaucoup de gens qui vous écoutent.
C'est-à-dire que vous avez envie de sacrer?
Oui, mais je peux pas le faire. Mais par contre, je veux miser sur l'intelligence des gens. Dans la mesure où c'est la seule façon de combattre cette pandémie-là. Puis il y a peut-être 2 chiffres qui peuvent aider, fait que je vais me permettre de les donner. Le premier, là, c'est que le ministère de la Santé et Services sociaux emploie 7% de la population du Québec. Ça, c'est une personne sur 14. Ça fait qu'on connaît tout quelqu'un, quelqu'une, qui donne des soins à des gens vulnérables et qui s'exposent eux-mêmes en le faisant. Là, peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient à la buanderie, qu'ils soient infirmières, tu sais, tout le monde est important. Donc, si vous voulez protéger les gens que vous aimez, que vous connaissez, vos amis, votre famille, restez chez vous.
Voilà. Donc, à la question de Robert, si vous me permettez, juste parce que ça répond en partie à la question de Robert, il dit, je fais quoi, moi, avec l'infirmière qui vient s'occuper d'habitude de ma femme qui est en soins palliatifs à la maison? Il y a en même temps sa fille et son fils, j'ai compris, dans le même building, son gendre qui travaille dans le milieu de la santé. Donc, il dit, moi, je fais quoi, moi? Qu'est-ce qu'il peut faire à cette question?
Ben, deux choses. Si c'est possible de physiquement séparer les gens pour s'assurer que chacun utilise ses ustensiles, sa toilette, son espace, on le fait. Sinon, ben faut être obsessif avec le lavage des mains, avec ne pas se toucher le visage, minimiser.
Donc, l'infirmière pourrait continuer de venir, par exemple,
à
condition que les mesures d'hygiène soient respectées.
Oui, on ne veut pas abandonner les gens. Ça, c'est super important. Il faut qu'on continue de donner les soins parce que les maladies n'arrêtent pas.
Voilà. Et le deuxième point, vous vouliez
nous parler. Le deuxième point, c'est à ceux qui pensent qu'ils n'auront pas le virus.
Oui.
Mais regardez les stats, là. C'est pas quelque chose qui est secret. C'est pas dans le secret des dieux, là. Toutes les organisations de santé publique dans le monde, là, peu importe les pays, Québec, États-Unis, Allemagne, vont vous dire qu'entre 30 et 70 de la population vont attraper ce virus-là. La différence entre le 30 et le 70, le 30 c'est si tout le monde reste chez eux et qu'on trouve un vaccin. Puis le 70 c'est, personne n'a respecté les consignes ou on les a respectées assez longtemps pour que les gens l'aient attrapé, puis que le 70% qui ont des anticorps protègent le 30% qui ne l'ont pas eu. On appelle ça le concept de herd immunity. Donc, si on prend un chiffre dans le milieu, 50%, là, ben 50% de 8 millions de Québécois, c'est 4 millions de personnes. Fait qu'il n'y a personne qui est à l'abri.
Voilà.
Donc, effectivement, s'il vous plaît, pour la santé de tout le monde, parce qu'il va y avoir des pénuries de tout, là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'isoler, de rester chez nous.
Le port
pas
du
d'éviter
masque.
Les déplacements. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a dit « Je vais mettre un masque en sortant. » Sortez pas. C'est plate à dire, mais sortez pas.
Voilà. Le port du masque, justement, en 15 secondes, là, on a beaucoup parlé, mais le port du masque est-il à conseiller pour tout le monde, là?
Non, mais non, parce qu'il doit être à ceux qui sont symptomatiques pour qu'eux protègent ceux qui ne l'ont pas.
Et ceux qui s'en patentent un de fortune, un masque là, pour pas envoyer leur postillon
partout. Comme
Dr.
Arruda l'a dit, il y a plein de recettes qui sont ça, de sources fiables, là, honnêtement. Mm-hmm. Au moins, utiliser les sources universitaires.
Voilà.
Là, et là, faites-le.
Merci.
Mais n'oubliez pas le reste.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve demain.